Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 24. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient là, ça fait deux semaines avant Shavuot, c'était un peu chaud, Baruch Hashem. C'est des notions qui n'étaient pas faciles à digérer. On a expliqué qu'est-ce que c'est le deuxième commandement des Aseret HaDibrot. Tu n'auras point d'autre Dieu. Nous, quand on entend ce commandement, tu n'auras point d'autre Dieu, on comprend, ça veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Bon, est-ce que j'ai un autre Dieu? Quelqu'un y pense qu'il y a un autre Dieu? Alors, c'est des choses évidentes. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que quand on dit ne pas avoir d'autre Dieu, ça ne veut pas dire croire qu'il y a un autre Dieu. Parce que ça, il faut être fou pour croire qu'il y a un autre Dieu. C'est pas ça. Quand on dit l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie moderne? On avait commencé à expliquer. L'idolâtrie moderne, c'est croire qu'il y a quelque chose à part Dieu. C'est quelque chose qui est à part Dieu, ça peut être moi, par exemple. Et est-ce que Dieu y pense? Et est-ce que moi, je pense? Et ça, d'une certaine manière, de manière raffinée, bien sûr, c'est pas l'idolâtrie texto, c'est pas l'idolâtrie du Shulchan Aruch, mais de manière raffinée, l'idolâtrie aujourd'hui, c'est ça. C'est quand je mets quelqu'un dans ma vie à part Dieu. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, et il y a quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être mon argent, peut être moi, peut être beaucoup de choses. Et on avait donné une idée très puissante, qu'on avait seulement commencé à développer. On avait dit que d'une certaine manière, quand je fais une avéra, je suis plus grave que le Satan en personne. Pourquoi? On avait développé longuement dessus. On avait dit parce que le Satan, il ne fait que faire son travail. Dieu, il a payé pour ça. On avait donné plusieurs exemples, l'exemple de la prostituée, tout ça. Bon. On avait expliqué que le Satan, il est payé pour ça.
Mais il s'arrête quand on...
Et lorsque ma chère viendra, dès que Dieu lui dit, ça y est, arrête-toi, il s'arrête. C'est-à-dire son employé, il est payé pour ça. Il fait pas le mal pour le kiff. Dès que Dieu lui dit, arrête-toi, stop, il s'arrête. Donc le Satan en personne, alors on avait posé la question la semaine dernière, ça fait deux semaines, on avait dit, mais est-ce que des fois le Satan il va pas un peu trop loin? C'est ça la question qu'on avait posée. On avait dit que même si des fois il va un peu trop loin, qu'il prend des libertés, mais ça sera jamais aussi grave qu'un juif qui fait une avéra.
C'est Satan qui pose le...
Bien sûr. Pourquoi ça sera jamais aussi grave? Puisqu'un juif, quand il fait une avéra, il a un Dieu, et il sait qu'il a un Dieu, et il connaît son créateur, donc surtout quand il est religieux, parce que celui qui n'est pas religieux, il n'est pas religieux. Mais des gens comme nous qui sommes religieux, quand on fait une avéra, on prend tout sur la tête. Celui qui n'est pas religieux, il n'est pas religieux, il ne connaît pas. Pas quelqu'un qui ne connaît pas, pas quelqu'un qui connaît. Mais celui qui connaît, on dit, mais t'es pire que le Satan en personne. Pourtant, il dit, mais attends, je me suis lâché une minute dans les 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pire que le Satan en personne. Pourquoi? On a expliqué. Parce que quand, un moment dans la journée, je décide de mettre Dieu de côté, ça veut dire que dans ma tête, il y a autre chose à part Dieu. Donc à ce moment-là, c'était de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie pas dans le sens du Shulchan Aruch, mais c'est de l'idolâtrie dans le sens que j'ai cherché, j'ai mis quelque chose dans ma vie à part Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le point qu'on avait développé, ça fait deux semaines. Ok. Alors maintenant, on va avancer un petit peu Velachem, c'est pour ça. Velachem, donc page 298, vous avez les Tania ici. Et donc on est à l'étude du 15 Shvat.
C'est ça qu'on dit, Bechol Berachacha Da'u.
Bechol Derecha Da'u, ça veut dire...
Dans tous les chemins qu'on est le...
Oui, non, mais ça veut dire
quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut...
Bien sûr, c'est ça. C'est quelque chose de très important dans la chassidoute, ça. De retrouver Akadosh Baruch Hu dans chaque détail de la vie, parce que sinon, se séparer d'Akadosh Baruch Hu d'un seul instant, et ça, c'est pas une invention de la chassidoute, ça. Ça, c'est écrit dans la Torah, et surtout Rabbi Chaim Vital, ou l'Arizal, il parlait beaucoup de ça. Il disait, ça, c'est l'avodah zara moderne. L'avodah zara moderne, c'est mettre de côté Akadosh Baruch Hu. Pas dans le sens, je vais aller faire mes affaires, parce que quand on va faire ses affaires, on met pas Dieu de côté. Quand je vais faire mes affaires, c'est parce qu'il faut que je dois vivre. Donc, je vais aller travailler. J'ai pas mis Dieu de côté. J'ai pas dit Dieu, bon écoute, je te mets de côté pour une heure et je reviens te voir dans une heure. Quand je suis parti faire mes affaires, je suis parti faire mes affaires, je veux travailler, c'est comme ça. Là, on parle d'une personne qui fait une avéra. Lorsqu'il fait une avéra, il a mis Akadosh Baruch Hu de côté. Enfin, il et moi, j'ai mis Akadosh Baruch Hu de côté. Okay. Donc ça, c'est plus grave que le Satan en personne. Ok, on va développer maintenant.
Quelle que soit l'avéra.
Dès que j'ai une volonté de mettre Dieu de côté, ça s'appelle Avodah Zara. Entre guillemets. Maintenant, on va développer. Dans la paracha la semaine dernière, paracha de Nassau, on a parlé d'une femme qui était Sota. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est une femme. C'est particulier comme cas. C'est une femme que son mari, il a attrapée en train de se cacher avec un monsieur. Maintenant, on n'a rien vu. On a vu qu'elle s'est cachée. Alors, comme elle a sa cheskat kashrut, elle a sa présomption d'innocence, donc son mari lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Intel? La porte était fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il s'est rien passé. Alors son mari lui dit, écoute, bon, je te crois, je te fais confiance, mais je te préviens, ne t'enferme plus avec ce monsieur. Il arrive le lendemain, il découvre la même scène. Sa femme, elle est toujours enfermée avec le même monsieur dans la même pièce, enfin en tout cas elle est enfermée. Alors le mari commence à se poser des questions. Et il a de quoi se poser des questions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve. On ne sait pas s'il s'est passé quelque chose. La femme va commencer à dire, oui, mais c'est toi qui as l'esprit tordu, qui me soupçonne, etc. Vous connaissez? Donc, bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? À l'époque du Beth Amikdash, on devait amener la femme au Beth Amikdash et on devait lui faire boire une eau. Et cette eau-là, si la femme Béhémet n'avait pas fauté, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, elle aura une bracha. Bon. Si par exemple, elle avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle avait des enfants qui étaient pas en bonne santé, ils seront en bonne santé, etc. C'est-à-dire qu'elle aura la bracha dans son ventre. Mais si au contraire cette femme avait fauté, on dit que ses os vont devenir les os de la malédiction dans son ventre, et son ventre va exploser, elle va mourir. Maintenant, c'est pas venu nulle part. Comme ils disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire, on dit pas qu'elle a fauté cette femme. Mais déjà, si son mari l'a prévenu, c'est-à-dire que cette femme a fait déjà un premier interdit, c'est qu'elle a transgressé les lois de Yichud. Elle a transgressé les lois de Yichud, c'est-à-dire qu'elle s'est isolée avec un homme. Maintenant, est-ce qu'elle avait les idées mal placées quand elle l'a fait? Ça, il n'y a que elle et Dieu qui le savent. Parce que l'homme, on ne sait pas ce qu'elle avait dans la tête. D'accord? Le mari, on ne sait pas ce qu'il en pense. Mais en tout cas, est-ce qu'elle, elle avait les idées mal placées? Parce que c'est vrai, parce que la Gemara, elle dit que des fois, le mari, il va se poser des questions, il va dire, mais attends, je dis à ma femme de ne pas le faire, ma femme me dit j'ai rien fait. Le mari va me poser la question, il va dire est-ce que c'est pas moi qui ai un peu les idées mal placées? Hein, comme on dit, il y en a qui disent quoi la possède, be ou me possède. Tout celui qui invalide quelqu'un, il invalide dans ce qu'il aurait fait lui-même. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un te traite de voleur, tu vois, il y a une situation spécifique, il te dit mais espèce de voleur, ça veut dire que lui dans la même situation c'est ce qu'il aurait fait. D'accord? C'est pour ça. Ça, c'est très fréquent, ça. C'est-à-dire que lui, il te dit ce que lui, il aurait fait. C'est-à-dire que lui, par exemple, quand il dit, ah, mais t'as vu, celui-là, c'est un voleur? Parce que lui, il s'imagine qu'une situation comme ça, avec les facilités qu'il aurait eues, il aurait volé. Alors, est-ce que la femme a fauté? Elle a pas fauté, la femme. Mais d'un autre côté, elle a quand même transgressé un interdit des rabbins. Les rachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de s'isoler. Et là, elle s'est très clairement isolée. C'est isolé le temps d'avoir des relations. Parce que la Gemara a dit qu'il faut qu'il soit isolé minimum le temps d'avoir des relations. Quand on a des relations, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le temps minimum qu'un œuf, de cuire un œuf. Quand ça, en 2-3 minutes, c'est réglé. Donc, concrètement, cette femme est soupçonnée. Ce qui est curieux maintenant, c'est que, comment on l'appelle cette femme? On l'appelle la
Sota.
Pas la Siota, la Sota. D'accord? Hein? La Sota.
C'est pas très loin.
La Sota. Maintenant, Sota en hébreu, quelle est l'origine du mot Sota? L'étymologie. L'étymologie du mot sota en hébreu, sota, ça veut dire dévier. Ish, ish, qui tistait ishto. Donc, le verset dit, un homme que sa femme va dévier. Puisque c'est très clairement une déviation du droit chemin, parce que c'est pas normal qu'elle s'isole avec un homme. Ouais. Peut-être qu'elle n'est pas partie de mauvaise intention, peut-être qu'elle s'est un peu laissée aller, peut-être que bon, elle n'a pas vraiment fait attention, mais c'est déjà une déviation. Ce qui est curieux, c'est que, comment on dit en hébreu sauter, une personne qui a dévié? Quand vous allez en Israël, par exemple, quand vous avez une déviation, en France, c'est écrit déviation, déviation de la route, d'accord? Comment c'est écrit en hébreu? C'est écrit stia. Stia, ça s'écrit avec un samer. Samer, tête, yud, he. Même en hébreu moderne, une déviation ça s'appelle stia. Stia, c'est déviation. Donc normalement, une déviation en hébreu, on écrit avec un samer. Ce qui est curieux, et c'est là qu'on y arrive à notre cours, c'est que dans la paracha, la semaine dernière, la paracha de Nassau, quand la Torah parle de la sota, elle dit ish ish, un homme qui tisté ishto, c'est écrit avec un sin, pas avec un samer. Ce qui est curieux, parce que grammaticalement, c'est écrit pas comme ça. Grammaticalement, l'istot, la racine du mot sauter, vous savez qu'en hébreu, tous les mots ont une racine de 3 ou 4 lettres. En général, c'est 3 lettres. La racine du mot sauter, c'est samer, tête, he. Et là, la Torah a changé, pas partout, mais elle a changé dans certains endroits. Elle a mis un sin à la place du samer. Donc c'est pas un hasard. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit, c'est un clin d'œil de la Torah. C'est quoi le clin d'œil de la Torah? C'est pour te dire qu'en vérité, tu vois, à la place du Samer, on t'a mis un signe. Mais le signe, en vérité, dans le Sefer Torah, puisque c'est pas ponctué, donc ça peut donner aussi un shin. Donc si je lis sans les voyelles, qu'est-ce que ça me donne? Ish, ish, un homme, kitishte isto, lorsque sa femme va devenir folle. Et de là, la Gemara dit la chose suivante. On n'a rien contre les femmes, mais de la Gemara dit la chose suivante, elle dit que un homme ne faute seulement s'il a eu un esprit de folie qui lui est passé par la tête. Ça veut dire, en d'autres termes, pour revenir à notre sujet, sauter en hébreu, ça veut dire dévier. Mais la Torah l'a écrit d'une manière qui peut se comprendre fou. Pour te dire, ne dévie qu'une personne qui est devenue fou. Ça veut dire que s'il a dévié, c'est parce qu'il est devenu fou. Vous allez me dire, ça fait des circonstances atténuantes.
S'il est normal, il n'y a rien de tout.
Une personne normalement conçue ne peut pas fauter. Et le Yetzer Hara, pour me faire fauter, il est obligé de me rendre temporairement fou. Vous allez voir qu'à la fin de ce cours, on va se dire qu'on vit dans un monde de fous et que quelque part, on est fou nous-mêmes.
Bon,
ouais. Ouais, la semaine, il y a deux semaines, on était idolâtre, maintenant on sera fou. Voilà, okay. Comme ça, hein, tant alors, qu'à faire, on n'est pas une insulte près.
Un fou idolâtre.
Donc on est innocent.
Ah non, attendez, doucement.
Non, on n'est pas responsable.
Voilà.
Donc circonstances atténuantes.
On n'est pas responsable. On n'est pas censé faire
ça. On va expliquer les techniques du Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara, pour me faire fauter, il est obligé de me rendre fou. Parce qu'une personne normalement conçue ne faute pas. Pourquoi ? Vous savez, Dieu, il nous a donné aux hommes le sechel. Le sechel, c'est-à-dire qu'il est capable de réfléchir. Bon, un bébé, il ne réfléchit pas peut-être. Il ne réfléchit pas, en tout cas, il n'a pas assez d'horizon pour analyser les retombées de ses actes. Mais quand on a grandi, on connaît les retombées de ses actes. Et normalement, logiquement, avant de fauter, quand tu sais les retombées de la faute, ben, ça même, déjà, ça devrait t'arrêter de ne pas fauter. C'est normal. Comme une personne, il va pas sauter. Pourquoi il saute pas du toit ? Parce qu'il sait que s'il va sauter, il va se casser la figure. C'est pas il va sauter, il dit bah tiens, je vais réfléchir dans la route.
Pareil,
attends, mais pourquoi c'est pas pareil ?
En route,
pourquoi c'est pas pareil ? C'est pas qu'il dit je vais sauter, oh, on verra, t'inquiète pas, on va aviser.
Il a raison, c'est pas pareil parce que là ici, dans les grands tunnels, on a une application.
Ah, prêt, d'accord.
Du machin du vivant, de l'instant.
D'accord.
Et dans ce que tu dis. C'est dans une application future.
Je vais te poser une question. Michael Ben David.
Ouais.
J'aurais pu dire Ben Gassouli, mais je dis Michael Ben David.
D'accord.
Est-ce que ça t'arrive de fauter ?
Bah, tous les jours.
D'accord. Comme tout le monde. Pas au Hachem, on est tous les mêmes. Est-ce que après que tu fautes, tu regrettes tout de suite ?
Je sais pas.
Bah, parce que ça t'arrive de regretter tes fautes, en général.
Tu sais pas.
Toujours dans
non.
Quand j'ai conscience, oui, quand j'ai pas conscience.
D'accord. Les fautes que t'as conscience, tu regrettes ?
Ouais.
Et pourtant, tu le refais tous les jours.
Voilà.
Pourquoi ?
C'est un automatisme. Je suis un robot.
Ah non, t'es pas un robot.
C'est parce que tu es.
Exactement, parce que tu es complètement fou.
Hein ? On est fou. Ça veut dire, c'est quoi la force du Yetzer Hara ? Ce qu'on va développer, c'est ce que la Gemara te dit. C'est-à-dire que cette femme-là, si elle est partie se cacher, c'est qu'elle est devenue folle. En ce moment-là, elle est devenue folle. Ça veut pas dire qu'elle est folle. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, pour te pousser à une déviation, il est obligé de te rendre fou. Parce que sinon, jamais tu ferais une déviation. Une personne normalement conçue ne fait pas de déviation. Alors, on va développer.
Si on regrette, on ne refaute pas. Tout
bah, dans les faits, on refaute. Tous les jours. Tous les jours. La Gemara a dit que les Rechaïm, ils regrettent tous les jours, chaque seconde. Et pour faire, on refaute tout le temps.
On ne regrette pas là, c'est bien.
Ah bah non. La preuve, c'est que la seconde après qu'il a fauté, il regrette. Le problème, cette seconde-là, il ne l'a pas faite avant. Avant de fauter. Mais il n'arrive pas. Parce que, c'est quoi une personne qui est fou ? C'est une personne qui ne réfléchit plus. À un moment, tu vois, le fou, c'est on a éteint son cerveau.
Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait.
Le Yetzer Hara, il éteint nos cerveaux. Il passe en mode hors logique.
Ça dépend de la faute, hein, David.
Ça dépend de la faute, bien sûr. C'est-à-dire qu'il arrive à éteindre ton cerveau. Tu ne réfléchis plus. C'est ça, il faut rentrer dans les techniques du Yetzer Hara. On va développer.
C'est pas réfléchir autrement ?
Non, c'est pas réfléchir. La faute, c'est pas quelque chose de réfléchi. Une faute, c'est jamais réfléchi. C'est pas, il se dit, bon, c'est calculé, tu vois, c'est un risque calculé, tu vois, il dit, bon, je vais faire ça.
Mais il y a quand même des choses intentionnelles.
Bien sûr, mais c'est pas calculé.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Il faut être dans un état de
c'est intentionnel dans le sens, je suis conscient de faire ce que je fais, je vais kiffer, et j'ai envie de faire ce que je fais. Mais c'est pas calculé.
Oui.
Ça veut dire, on peut pas dire que, si tu veux, en d'autres termes, pour être plus clair, quand je faute comme un animal. Quand je réfléchis comme un homme. Un animal aussi, il réfléchit. Mais c'est pas calculé. Il se laisse aller. Et sa réflexion est uniquement, je réfléchis comment arriver à la faute. C'est-à-dire, le seul cerveau que je vais utiliser, l'intention, c'est comment arriver à la faute et pourquoi la faute est intéressante. Mais je réfléchis pas, est-ce que je dois la faire ou je dois pas la faire. À un moment, je suis éteint.
C'est ce que l'on en tire.
Voilà. Donc c'est comme un animal, ça. Un animal aussi réfléchit à ça. Ça s'appelle pas réfléchir, ça. Réfléchir, c'est, je réfléchis comment je vais atteindre la bêtise. Et est-ce que la bêtise est intéressante? C'est pas est-ce que je dois faire la bêtise. Ça, c'est sûr que je vais la faire. C'est est-ce que la bêtise est intéressante pour moi. Si j'arrive à une, je la fais. Tu comprends? Et après que j'ai fauté, je commence, là, tout d'un coup, mon cerveau se réveille. Et je réfléchis pas. Est-ce que je vais fauter? J'ai déjà fauté. Je réfléchis. Est-ce que j'ai bien fait de fauter? Mais ça, j'ai pas réfléchi avant de fauter.
J'ai pas réfléchi à la faute. Mais
voilà.
Je réfléchis généralement.
Avant, j'ai réfléchi. Est-ce que la faute est intéressante pour moi?
Ouais.
On va développer tout de suite. Regardez.
Il a pas réfléchi demain matin, je vais fauter.
Il n'a pas réfléchi. C'est pas calculé.
Il va lever demain matin.
Mais la haine, c'est pour ça. Peu importe la vera qu'on a fait. Alors c'est vrai que là, on parle d'une vera d'adultère, qui est une vera qui est très très grave, d'accord. Mais la Gemara, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara nous dit que ce principe-là s'applique pas que sur cette femme qui a été adultère. Enfin, en tout cas, qui est soupçonnée d'adultère. Ce principe, la Gemara l'applique pour tous les cas. que dans tous les cas, Amrou Rabotenu Zichronam Livracha, c'est vrai que l'exemple était le cas de la femme adultère, mais de là les Chachamim ont compris dans tous les cas que En al pasou qui tiste ishto sur le pasou qui tiste ishto, qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'on qui tiste, vous le avez dans les mots, avec le signe au lieu de sa mère, En Adam over Avera. La Gemara n'a pas dit là-bas qu'un homme ne fait 7 Avera de l'adultère seulement s'il est devenu fou. On aurait pu dire ça. On aurait pu dire que sur la Avera des femmes et vice versa, d'accord? On peut perdre la tête. On sait qu'il y a des gens qui perdent la tête pour les femmes et vice versa, des femmes qui perdent la tête pour des hommes. Mais la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara n'a pas dit qu'un homme perd la tête pour une femme et une femme perd la tête pour un homme. Elle a dit En Adam over Avera. C'est en règle générale. Un homme ne peut faire une faute, peu importe laquelle en général, de rouler, etc. Un homme,
Adam,
c'est une entité humaine.
Humain.
Elle veut dire une femme aussi. Ein Adam over Avera. Donc un homme ne peut fauter, etc. Et là, imken irtas bo ruach tout, sauf si il peut fauter, sauf seulement s'il a eu un ruach tout, un esprit de folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Borazaken veut dire ici la chose suivante. C'est vrai que l'exemple que la Torah a donné, c'est un cas particulier, c'est un cas d'une femme qui a fauté. Mais c'est applicable pour tout le monde. Chaque petite faute qu'on fait, peu importe la faute qu'on a fait, même si c'est un petit lâche, un petit truc, peu importe la faute que tu as fait, pour qu'il y ait une faute, il faut qu'à un moment, je suis devenu fou. On m'a rendu fou sur ça. C'est sur ça, le Yitzhara, il s'est arrangé pour que je ne vois plus rien. Et il y a des fois des choses, on ne voit plus rien. Il ne voit plus, il ne voit que du feu, il ne voit plus rien du tout. Alors, pourquoi maintenant on parle de cette femme maintenant? La Demora Zaken, il se met dans un autre endroit, il dit parce que le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est comparé à l'homme et nous on est comparé à la femme. Ah oui, c'est la même chose. Et quand on te dit dans la parashat Nasso que la femme se cache, ça veut dire la même chose. La femme c'est Israël et des fois on cherche à se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez le rapport? Le rapport est au cours de la semaine dernière. C'est que des fois on cherche à se cacher. Maintenant Dieu il est omniprésent, il est partout. Mais quand moi je veux me cacher, d'accord, lui il se cache pas. Lui il est tout le temps là. Mais quand moi je décide de ne plus le voir, je fais comme si il n'est plus là, eh ben je me cache. C'est exactement la même chose. Donc je me cache. C'est-à-dire à un moment je dis écoute Akadosh Baruch Hu, je te regarde plus, ne me regarde plus. C'est exactement la même chose. Maintenant, je suis fou de penser comme ça. Pourquoi je suis fou? Parce que si je réfléchissais un seul instant, je sais que Dieu il est encore plus fort que le mari. Parce que le mari il sait pas ce qui s'est passé dans la pièce. Mais Dieu il sait ce qui s'est passé dans la pièce. Donc tu te caches de qui? Tu te caches de quelqu'un qui est Big Brother, qui te regarde partout? Il y a Big Father, on va l'appeler, hein. Big Father. Il t'en regarde partout. Donc, de qui tu te caches de personne? Donc, en vérité, le Yetzara m'a rendu fou. Il me fait croire que Dieu ne regarde pas. Comme le prophète Isaïe, il dit, ou c'est Jérémie, je crois, qui dit, Im isater ish bamistarim, est-ce qu'un homme, il croit qu'il va se cacher dans les cachettes, va à Nilo et nous, et moi, je le verrai pas? Bien sûr, Dieu le voit. Seulement, le Yetzara, il me rend fou.
C'est ça le problème.
Il me fait croire, il me dit, t'inquiète pas, Dieu, il t'a pas vu. Pas vu, pas pris. D'afilu isham na efet. Même une femme qui va mena efet, qui va fauter. D'accord? Donc mena efet, ça veut dire donc cette femme qui est adultère, qui est très clairement, c'est-à-dire qui est partie avec un autre homme. Parce que n'oubliez pas que son mari, il a déjà prévenu la veille. Il lui a dit, je te préviens, devant deux témoins, il a prévenu, il a dit, ne t'isole plus avec cet homme. Il doit le faire avec des témoins. Suite à une première fois où elle s'est déjà isolée. Donc c'est louche. Ça sent le roustiche, c'est pas bon ce qui se passe. C'est pas normal. On peut pas s'isoler une deuxième fois avec le même homme et à chaque fois la porte est fermée, il y a un problème. C'est pas normal. Même cette femme-là. Pourquoi la Torah a utilisé ce cas-là? Pour te dire que même cette femme-là, que tu aurais pu dire cette femme-là, bon, elle s'est laissée aller, datam kala. Son esprit est un petit peu léger. Eh ben, on te dit que même cette femme-là, qui est visiblement telle que c'est décrit dans la Torah, quelqu'un qui est très léger, eh ben, même une femme qui est légère d'esprit comme ça, eh ben, même cette femme-là, si elle avait réfléchi un seul instant et si le Yitzhara ne l'avait pas éteint son cerveau, jamais elle aurait fauté. Calva Homer a plus forte raison quand c'est quelqu'un qui n'est pas léger d'esprit, quand c'est quelqu'un qui réfléchit, que c'est sûr qu'il ne devrait pas fauter normalement. Alors comment il fait le Yetzirah? Il nous rend fous. Donc on est tous fous en vérité. On est fous. Il y a des moments dans la journée dans lesquels on est fous. Là, tu vois par exemple, tu dis une phrase à ta femme sans faire exprès, tu vas la voir le lendemain, tu lui dis désolé, hier j'étais fou.
Je sais pas ce qu'il m'a fait.
Tu vas dire mais t'es fou parfois. Tu peux plus la même
chose. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On est fous ou on n'est pas fous alors? Michael, qu'est-ce que t'en penses?
On n'est pas conscient.
Ah, c'est dur, on est fou quand même.
On est fou, ça y est. Vous savez, je roule une parenthèse. Une fois, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que si une personne s'est mariée avec une femme, d'accord? Donc un homme et une femme, ils se sont mariés, et que quand ils se sont mariés, les deux, ils étaient normaux. Et qu'après, la femme devient folle. Et bon, on ne peut pas la divorcer. Vous savez pourquoi? Parce que pour divorcer, il faut donner le guet. Pour donner le guet, il faut que la femme puisse garder le guet dans sa main. Or, quelqu'un qui est fou, on dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire garder quelque chose. Donc, techniquement, il ne peut pas divorcer de sa femme. Alors, raconte une fois, je crois que c'est le José de Lublin qui disait ça, si mes souvenirs sont bons, qui avait dit, ou Rabbi Levitra Ivan Tchir, un des deux, qui avait dit que pareil, à Kadosh Baruch Hu, on a beaucoup fauté envers lui. Mais comme on est devenu fou, donc même s'il veut divorcer, il ne peut plus divorcer. Parce qu'on est marié avec Dieu. Dieu, c'est le mari, on est la femme. Mais il est bloqué. Parce que maintenant, on est fou. Alors, comme on est fou, il est bloqué avec la femme qui est fou. On est fou. Désolé, Kadosh Baruch Hu. Bon, mais on va quand même essayer de pas rester fou toute la vie. Il faut essayer de devenir normal.
Pourquoi le soldat, ça marche plus que par rapport à la femme? On parle pas de l'homme.
Parce que l'homme, c'est le patron.
Non, mais parce que l'homme, avant, il avait plusieurs femmes.
Non, mais on peut avoir plusieurs relations interdites.
C'est une bonne question. Pourquoi Dafka le... C'est applicable pour l'homme aussi. La Gemara dit « En Adam over Avera ».
Ah mais pourquoi le cas de la sota, c'est né à Marie,
là... Ah, ce qu'on a expliqué. Parce que la femme, c'est Israël, c'est le machal d'Israël. Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, et la femme, c'est Israël. Mais tu as raison que théoriquement, cet exemple qu'on a donné, on peut donner sur n'importe quelle avéra. Peu importe l'avéra. Et tu as raison que quand il y a un cas d'adultère, ben, l'adultère, ça se fait à deux, hein, ça se fait pas seul. Voilà.
Donc, aussi, prend sur la tête.
Bien sûr qu'il prend sur la tête. Il est passible de mort. Tu sais que l'adultère chez nous, c'est passible de mort.
Bon.
Oui.
Donc, ça veut dire que
c'est passible de mort là, l'adultère avec témoin.
Ah oui. Ah mais est-ce que
avec témoin.
Ouais. Hein? Non. C'est pas que sans témoin c'est permis. C'est sans témoin c'est pas passible de mort.
L'avertissement de Marie a été fait.
Un homme spécifique.
Oui. Qui était par rapport à la femme une relation interdite.
Interdite. Oui, bien sûr, c'est sûr. Il lui a dit ah si cette riche plonie. Oui, bien sûr.
Elle a bu les eaux. Elle a explosé.
Oui.
Le mari, ça suffit. Pour l'homme qui a fait la photo, on le tue.
Non. Il n'y a pas de preuve.
La preuve est là.
Non, il n'y a pas de témoin. Pas de témoin qui s'est passé.
Non, mais l'homme n'est pas dans l'obligation d'ingérer les eaux.
Peut-être ça qui nous aide qu'à la photo. On ne sait pas. Avec Mara parle de ça.
L'homme n'est pas dans l'obligation d'ingérer les eaux.
L'homme n'est pas dans l'obligation d'ingérer. Alors, on va revenir. D'afilu isham na efet, shedata kala, aita moshelet beruar ta'avata, même cette femme adultère, qui visiblement est de nature, comme il traduit ici, frivole. Bon, ça veut dire c'est une femme visiblement qui est très légère. Eh ben, cette femme-là, Aïta Moshelet Beruar Ta'avata, te dit la Gemara, que cette femme-là, si c'était pas un vent de folie, un esprit de folie, je dis un vent parce que c'est le mot de la Gemara, c'est un vent, comme un vent qui t'emporte comme ça. C'est pour ça que les gens, quand ils sont dans la folie, ils disent désolé, j'ai été emporté. C'est comme un vent. C'est emporté, ça veut dire, il y a comme un vent qui vient et qui t'emporte, t'as pas compris d'où ça arrivait. Donc, dans les mots, Loulé Rouarchtout Sheba, elle aurait pu dominer, maîtriser cet esprit de folie, elle aurait pu maîtriser son désir, si ce n'était l'esprit de la folie qu'elle a eu. C'est quoi l'esprit de la folie? Elle en va développer. Amechase, qui recouvre. Oumastir, Oumalim, et Taavam, Souteret, Shebenefesh, et Elokit. Pourquoi il faut être fou pour fauter? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le chapitre 19. Là, on revient au chapitre 19. On a expliqué que chacun de nous, de série, il a en lui un amour caché envers Dieu. Et cet amour caché envers Dieu est un amour qui ne le laisse pas fauter. Et que, pour pousser la personne à la faute, le Yetzer Hara est obligé, temporairement, d'éteindre cet amour envers un Kadosh Baruch Hu. Il est obligé, parce que sinon, la personne est incapable de fauter. Incapable. Et peu importe la personne, ça peut être le plus grand rachat de la Terre. Même le plus grand rachat de la Terre, pour qu'il faute, il faut que le Yetzer Hara l'a rendu fou. Maintenant, il y a des gens qui sont fous pour une seconde, il y a des gens qui sont fous pour 10 secondes, il y a des gens qui sont fous pour un quart d'heure, il y a des gens qui sont fous pour un jour, il y a des gens qui sont fous pendant 20 ans, et qu'après ils font de chouva, ça change rien. Mais ça change pas que dans tous les cas, ça reste toujours un esprit de folie. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, si on est fou, dans ce cas-là,
quand on arrive en haut,
on n'est pas responsable. Sauf qu'attendez.
C'est pas qu'on n'est pas responsable, on a des circonstances atténuantes.
Sauf qu'attendez, il y a une différence. C'est quoi la différence?
On vend le traitement.
Il y a une différence, c'est très simple. La différence, c'est que. On doit d'abord se laisser aller dans la Vera. Et après, une fois qu'il s'est laissé aller, après le Yetzara, il attaque. J'explique. Je vais être un peu cru. On va prendre l'exemple de la femme. L'exemple qu'on a dit ici. C'est pas du jour au lendemain que le Yetzara, il l'a mis dans la tête, il lui dit, va fauter avec cette femme. C'est pas du jour au lendemain.
Non, c'est un travail.
C'est un travail qui date depuis longtemps. C'est que d'abord, cette femme, il a commencé à la regarder. Et après, il a commencé à l'analyser. Et après, il a commencé à regarder les différents membres. Et après, il a commencé à penser à elle. Et après, ça l'a travaillé. Et après, il a commencé à lui parler dans les relations de travail. Et après, il a commencé à sortir un petit peu des relations de travail. Et après, il rajoute, et après, il rajoute, après, il rajoute. C'est de la surenchère.
Donc déjà, dans sa tête, il avait...
Donc ça fait longtemps dans sa tête déjà qu'il a déjà trompé. Ça fait longtemps déjà.
Donc c'est pas tellement être fou.
Donc attendez, seulement, voilà.
C'est de la préméditation.
Seulement, dans sa tête, tant qu'il n'a pas fauté, il se dit, ça va, j'ai rien fait. Je peux encore m'arrêter. Il se rassure. Dans sa tête, chaque fois qu'il commence à avancer, il dit ça, je fais une petite folie comme ça, mais il se dit, de toutes les façons, j'ai pas encore fauté.
Ouais, moi, dis pas que la pensée, d'accord, d'abord, c'est...
Ah, bah justement, ça le problème. C'est que dans sa tête, c'est encore récupérable. Après, il arrive à une situation dans laquelle c'est irrécupérable, dans laquelle c'est fini, il est parti. Mais pourquoi il est parti? C'est lui qui a appelé le vent. Quand il a appelé le vent et que le vent il arrive, là, bien sûr, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il pourra pas dire, désolé, j'avais des circonstances atténuantes. Parce qu'on lui dira, ce vent, c'est toi qui l'as commandé. C'est toi qui arrêtais pas de tourner autour de cette femme. Là, j'ai pris l'exemple de la femme. On aurait pu donner n'importe quel exemple. D'accord? La Gemara donne cet exemple. Ça veut dire que, en vérité, tu vois, par exemple, on va prendre d'autres exemples par la femme. Tu vois, imaginez quelqu'un qui est au régime, par exemple, tu vois. Et qu'il a pas le droit de prendre ses chips. Il a pas le droit, c'est interdit. Il a pas le droit. Maintenant, il a pas le droit. C'est, il grignote. Avant qu'il mette la main et qu'il va le prendre, la chips, elle lui faisait de l'œil pendant longtemps. Et il la regarde et elle le regarde. D'accord? Et pendant longtemps. Et pendant longtemps, et je la prends pas. Et à la fin, quand il a craqué au dernier instant, c'est la conclusion d'une mûre réflexion. Est-ce que je prends le chips ou pas?
Oui, très bien.
Ça s'appelle une maladie, ça.
C'est pas une maladie. On est tous malades.
Grâce à Dieu.
Mais ça veut dire que, quelque part, au début, je peux encore maîtriser.
Non.
Si.
C'est dur de contrôler.
Quand au début, par exemple.
Quand il est ici à la chips.
Quand, par exemple, au début, le Yitzhahara, il m'envoie dans la tête une femme de quelqu'un d'autre. Qui m'est interdite. Assour. Si dès le départ, dès qu'il commence à le mettre dans la tête, je lui dis, assour. Comme Ibn Ezra donne l'exemple. Il dit, est-ce que ça viendrait à l'esprit d'un paysan d'avoir des relations avec la fille du roi? Même pas celui-là à l'esprit, parce qu'il sait que c'est impossible. Ça veut dire que si à l'esprit il y pense, c'est-à-dire dans sa tête, c'est jouable. Maintenant, j'ai pas dit qu'il compte le faire. Au début, il y pense. Il fantasme, excusez-moi du terme. Et, d'accord? C'est. Mais ça veut dire, le Ibn Ezra, dans son commentaire sur les 10 commandements, il te dit, tu ne peux fantasmer que de quelque chose que tu penses que tu peux atteindre. Si dès le départ dans ta tête, dès que le Tzara te met ça dans la tête, dès qu'il me met ça dans la tête, tout de suite, je me dis, non, c'est pas pour moi. Tout de suite. À ce stade-là, il faut une force de caractère, mais à ce stade-là, je peux maîtriser. Mais si je me laisse aller, après, il faut pas se plaindre. Et après, c'est la surenchère. La surenchère, la pensée, la parole, l'action. Ah voilà, c'est fini. Comme ça, pensée, parole, toujours. Le principe de l'homme, c'est pensée, parole, action. Tu en penses, après tu en parles, après tu passes à l'acte. Donc c'est ce qu'il dit dans les mots. Il dit que...
Donc le Sahara, il veut faire en sorte que du fantasme, on passe à l'action et à la faute.
Le Yetzara, exactement. C'est-à-dire, le Yetzara, c'est pas lui qui te met.
Parce que progressivement.
Le Yetzara, il te présente un fantasme.
Les biens croustillants, etc.
Bien sûr.
Et puis après.
Le Yetzara, il te présente un fantasme dans la tête. Après, c'est moi de décider. Est-ce que j'en fais cas et je continue? Donc, est-ce que j'en fais cas et je développe? Ou bien est-ce que je fais pas cas et je continue?
Bien sûr.
Donc, je suis responsable.
Ouais, là, pleinement.
Parce que finalement, je pense que le meilleur exemple, c'est comme celui qui saute. Il a sauté. Maintenant, peut-être qu'il a sauté à 10 000 mètres d'altitude, donc avant d'arriver en bas, il lui faut 10 minutes. Je sais pas combien de temps il faut pour arriver depuis en haut. D'accord? Mais concrètement, c'est inévitable, il va fauter. C'est clair qu'il va fauter. Il y a rien qui va le rater. Il va fauter. Il va se casser la figure. Donc, à quoi tu joues maintenant? Tu sautes, tu dis on verra, mais tu vas pas voir, tu vas te casser la figure. C'est la même chose.
Alors, comment tu peux expliquer alors, dans ce cas-là, les personnes qui ont des addictions fortes? Sur que l'alcool ou le jeu.
Mais comment elle arrive l'addiction?
La drogue, etc.
Mais comment elle arrive l'addiction? Le bonhomme, il a pris le goût.
Parce qu'ils étaient faibles.
Bah, comment il a commencé? Il est pas né alcoolique, le bonhomme. Il est pas né quand il était bébé, on lui a pas donné de l'alcool dans le bureau, quand
non,
même.
Mais, le contexte dans lequel ils ont okay. baigné peut faire en sorte.
Il est devenu malade.
Il a une tendance forte à le devenir.
Il s'est rendu malade. Alors après, il y aura peut-être des circonstances atténuantes, que peut-être qu'il y avait des gens qui l'ont poussé, etc. Mais quand il a commencé. Regardez, c'est comme les fumeurs, par exemple. Il y a des gens qui fument. Bon, c'est des gens qui fument, c'est d'accord. La première cigarette, est-ce qu'elle était volontaire ou pas volontaire? Voilà, qui c'est qui fume dans la
salle? Elle était volontaire.
Voilà.
Non, la première, toujours, puisque tu copies.
Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a des gens qui fument aujourd'hui, qui aimeraient ne plus fumer, mais qui n'arrivent pas? Parce qu'ils sont Accro.
Dépendant.
D'accord. Ils sont devenus dépendants, addicts, comme disent les Américains.
Des gens qui fument, si tu prends l'exemple de la cigarette, des gens qui sont accros dès la première.
Ah non, c'est impossible, tu peux pas t'accrocher la première. Non. Comment t'as commencé la première? Bon. Pourquoi il a commencé?
Ils sont accros dès la première.
Parce qu'il voulait faire le beau, parce qu'il voulait plaire aux filles, parce que je sais pas ce qu'il voulait. Mais en tout cas, il a commencé. Pourquoi il a commencé? Pourquoi il a commencé? La première est volontaire, c'est sûr. Ouais.
Allez, dis-nous pourquoi.
Hein? Parce que ça, c'est... Non, parce que ça fait mec, j'en sais rien. Hein.
J'ai essayé, et puis...
Voilà, il a essayé. Ça peut être aussi pour essayer. Ouais, il voulait essayer. Mais la première était volontaire. Après, il y en a qui ne regrettent pas. Ils sont fumeurs et fiers de l'être, il n'y a pas de problème.
On n'est pas obligé. Hein.
C'est un exemple que je donne à la cigarette.
Il y en a qui
fait
pour le plaisir.
Oui. Donc, pourquoi il a commencé? Il a commencé par volontairement et après il est devenu dépendant, ce qu'il dit ici. Donc il dit, c'est l'admorazak et il dit Bémou, donc la même manière, on va revenir maintenant, on va quitter la cigarette et les femmes, on va revenir.
Rabbi disait que. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi? Ramra verechani.
Oui.
Verechani, c'est l'odeur de la cigarette.
Ah non, l'odeur, oui, bon. Ouais. Ah, mais vous savez que dans la Gemara, il y avait des gros fumeurs. Il y avait un mec dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Zera. Rabbi Zera. Et tellement c'était dur pour lui de ne pas fumer pendant Shabbat, qu'avant Shabbat, il prévoyait, il mettait de la fumée dans une bouteille qui fermait.
Ah ouais.
Et pendant Shabbat, dès qu'il arrivait plus, il ouvrait la bouteille, respirait, il referme la bouteille.
C'est la cigarette électronique avant l'heure.
C'est bien.
Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit que le fou, il arrête d'être fou jusqu'à ce qu'il fasse tes choix. Mais s'il est fou, c'est pas de.
Ah oui, mais attends, justement. Bonne question.
C'est comme un fou.
Très simple. En vérité, quand j'ai commencé, j'étais pas fou. Après, je suis devenu accro. Seulement, je suis accro jusqu'au moment où je faute. Dès l'instant où j'ai fauté, tout de suite, je me reprends. Sauf si vraiment j'ai fauté coup sur coup, quoi. Normalement.
Quand tu parles d'un fou, tu parles de quoi?
Très simple. Imagine-toi, par exemple, quelqu'un, il veut faire quelque chose. Il veut une avéra, il a une avéra dans la tête. Il a. Il vise une femme. Il y va. À un moment, il réfléchit plus. Et il s'arrêtera pas tant qu'il l'aura pas eu. Il va l'avoir. La seconde après qu'il a fait ce qu'il a fait, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va regretter. Pourquoi il va regretter à cet instant? Pourquoi il n'a pas regretté une seconde avant? Parce que jusqu'à ce moment-là, il était fou. Il ne réfléchit plus. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, donc la passion est partie, parce que maintenant la passion, elle l'intéresse plus, il a déjà eu ce qu'il voulait. Donc du coup, le cerveau reprend le dessus, et du coup, le cerveau lui dit, mais attends, t'as vu ce que t'as fait?
Mais tu parles pas d'un fou qui est malade.
Ah non, je parle pas des gens.
C'est un coup de folie.
Je parle de coup de folie. Un coup de folie. C'est pas un fou psychiatrique, c'est un fou. Un fou dans sa... C'est un fou comme nous. Ok? Dans les mots. Il dit, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû arriver? Normalement, n'importe quelle personne, il aurait dû comprendre qu'il a un amour en lui, un amour caché envers Akadosh Baruch Hu, et cet amour caché ne me laisse pas me séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit bien, comme on avait expliqué en chapitre 19, on va répéter cette idée. Cette personne qui est loin de la Torah, c'est celui qui est faute. Si maintenant on va lui dire, maintenant tu vas te prosterner à l'idolâtrie, qu'est-ce que ça change? Le même Dieu qui t'a dit de ne pas faire l'adultère, ce même Dieu qui t'a dit de pas te prosterner. Il dit, non, enfin, à l'église, je rentre pas. Pourquoi tu rentres pas dans l'église? Pourquoi ça oui et ça non? Qu'est-ce que ça change? En vérité, ça c'est la folie du Yetzirah. C'est quoi la folie du Yetzirah? Écoutez, mais c'est magnifique ce qu'il va dire. C'est quoi la folie du Yetzirah? Il dit, tu vois bien que cette personne-là, quand c'était pour Avodah Zara, il était prêt à donner sa vie à Filou Nofni Metav Shamimena à Avodah Zara, que même si on prend sa vie, je suis à la page 298, en bas, même si cette personne-là, on lui dit de faire Avodah Zara, Chasvei Shalom, il le fera pas. Va Filou Bishtach Avalevana, et même celui-là qui est pas religieux, on va dire, écoute, tu sais quoi? Fais juste comme si tu te prosternes. Fais comme si. Mais en vérité, au fond de toi, tu dis que tu restes religieux. Tu dis, mais jamais, même pas en rêve. Moi, je me prosternerai jamais devant une idole, jamais. Et pourtant, normalement, si pour quelque chose comme ça, il y avait ta vie qui était en jeu, ma vie était en jeu, on risque de le tuer pour ça. Et pourtant, il donne sa vie. À plus forte raison que retenir de faire un kiff, c'est beaucoup plus facile. Et pourtant, ça, j'arrive pas. Le kiff, j'arrive pas à me retenir. Ça veut dire, donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Ma vie, je donne. Et il va la donner. On a eu des gens comme ça qui ont donné leur vie. On a eu des milliers de gens qui ont donné leur vie. Ça, il le fait. Mais quand on lui dit, retiens-toi de pas aller te faire un plaisir, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Il dit, comment ça se fait qu'il n'arrive pas? Verchotcheken a plus forte raison. L'irbosh a yetzer, normalement, a plus forte raison pour casser, pour calmer, pour contenir son yetzerara. Vetaavat aniouf. Et le désir de du niouf, de l'adultère. D'accord? Je veux dire, c'est quand même plus facile de se retenir, de ne pas aller avec une femme, que de mourir. On ne peut pas comparer. Tu ne peux pas comparer les souffrances. La mort est une souffrance beaucoup plus grande. Et pourtant, un j'arrive, l'autre j'arrive pas. Pourquoi ? Si tu réfléchis avec la logique, on est incapable d'expliquer. Parce que là, on a un problème technique. C'est que la personne, on a vu des gens comme ça qui étaient prêts à donner leur vie pour un Kadosh Baruch Hu. Et qu'ils l'ont fait. Concrètement, ils l'ont fait. Donc, donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu pour ne pas faire l'idolâtrie, ça, il est prêt. Mais se retenir de ne pas aller avec une femme alors que c'est un plaisir qui va durer quelques secondes, d'accord, et qu'après il n'y aura plus rien, non, ça, il n'arrive pas à se retenir. Pourquoi il n'arrive pas à se retenir? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le Yetzara l'a rendu fou. Qu'est-ce que le Yetzara lui a mis dans la tête? Écoutez bien l'argument du Yetzara. Il dit, va efreshet la ben isur niouf, le isur ishtachava la vodazara ou gamken, je suis à la page suivante maintenant, ou roua, page 299, au milieu, va efreshet la, la différence que je me fais dans ma tête. Entre l'un, d'un côté, donc dans la tête, on va dire la tête de cette femme, entre d'un côté l'interdit de l'adultère et d'un autre côté l'interdiction d'Avodah Zara, la personne s'est fait une raison dans sa tête. Quelle raison il s'est fait dans sa tête? Il s'est dit, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Se prosterner à l'Avodah Zara, c'est très grave. L'adultère, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave?
Donc,
minimiser la gravité? C'est très simple. Parce que, comme on avait expliqué dans le chapitre 19, il va se dire, je resterai juif quand même. Quand il rentre à l'église, là il sent que ça y est, je vais couper les bons. Mais quand il va fauter avec une femme, il dit, ça va, bon, j'ai fauté, mais je reste juif quand même. Et dans sa tête, il s'est fait des catégories, tu vois, il a dit ça oui, ça non.
Ça c'est la pire.
Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux, parce qu'en vérité, même quand tu rentres dans une église, tu ne te sépares pas de Dieu. On ne peut pas se séparer d'un cas de jour. Alors quelle est la différence? Pour un, il est plus grave que l'autre. Rien plus grave que l'autre. Parce que dans ma tête, le Yitzhara, il m'a mis une catégorie. Il m'a dit, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Ça veut dire, le fait de catégoriser les Averot, de dire, profaner Kippour, c'est grave, profaner Shabbat, c'est pas grave, d'accord? Ou bien, profaner Shabbat, c'est grave, profaner Yom Tov, c'est pas grave, etc., etc., etc. Ou bien, faire Shabbat, c'est important, mais prendre l'ascenseur, c'est pas grave, etc. Comme chacun, il peut avoir ses petites nuances. Ça, c'est une folie du Yitzhara. Oui, mais de dire que une va me séparer de Dieu, l'autre va pas me séparer de Dieu, c'est archi faux.
Ça manque que trois mitzvot où on dit y arrive à y avoir.
Parce qu'il y a des avérotes qui sont plus graves que d'autres, c'est évident. Évident.
Et parmi celles-là, il y a.
C'est évident qu'il y a des avérotes plus graves que d'autres. Mais le Yetzara, il pousse plus loin. Le Yetzara, il te dit celle-là, elle est pas grave.
Elle est moins grave.
Non, non. Voilà, il te dit celle-là, tu te sépares pas de Dieu. Celle-là, tu te sépares de Dieu. Ce qui est faux.
C'est faux peut-être, mais
c'est archi faux.
Il y a
quand même des cas.
Mais un sera puni plus sévèrement peut-être.
Pas question de punir.
C'est une punition.
C'est une question. La avéra, qu'est-ce qu'elle fait?
C'est quoi une avéra? La avéra, c'est transgresser la volonté de quelqu'un. On avait fait un cours, vous vous rappelez, sur la femme enceinte. Tu ne donnes pas sa volonté. Transgresser, une fois qu'il transgresse, c'est fini, il n'y a pas de différence.
Non, mais il y a des avérotes qui créent une distance.
C'est sûr, ça c'est sûr. Je suis pas en train de dire que toutes les avérotes sont les mêmes. Je suis en train de rentrer dans la logique du etc. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait l'Yetzara pour m'avoir? Comment il fait pour m'avoir?
Il a pas tort.
Il minimise.
Il va minimiser. Il va dire, oui, mais ça change pas. Grave, tu as raison qu'il y a des avérotes plus graves que d'autres. On n'est pas en train de dire le contraire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le Yetzara, il te dit, cette avéra, tu restes pas juif. Cette avéra, tu restes juif. Donc tu peux y aller. Il te rend fou. C'est quoi une personne qui est fou? C'est une personne qui réfléchit plus. Comme par une personne, il va aller dans un magasin, il va acheter quelque chose. Et après, il dira, j'ai fait une folie. Pourquoi il a fait une folie? Parce qu'en vérité, il a acheté un truc, il en a pas besoin. Ça vous arrive? Tu rentres au magasin, tu vas acheter un truc. Bon, ça arrive plus aux femmes, la vérité, ça. Mais les hommes aussi ont des fois leur petite folie. Il va acheter quelque chose, il sait pas pourquoi il l'a acheté. Après, il dit, j'ai fait une folie. Il le dit clairement. Mais tant qu'il l'a pas acheté, il est pas tranquille. Ah, il est pas tranquille. Une fois qu'il l'a, c'est fini, dans le placard, après il touche plus. Et pourquoi il l'a acheté, on sait pas. Il fallait que j'achète cette paire de chaussures. Ah, il fallait, important. C'est le tout le monde, il tient sur cette paire de chaussures. S'il n'y a pas la paire de chaussures, c'est pas possible. Après, il va pas la mettre. Ou elle va pas la mettre.
Il l'a mis une fois, elle
s'est dit. Ouais, c'est compulsif.
C'est la notion du shtout. Shtout, c'est la folie. Ça veut dire que quand on est pris par un esprit de folie, rien peut nous arrêter. Alors, Michael, t'as dit quelque chose? T'es en train de dire quelque chose?
Non, ce que je suis en train de dire, c'est le meilleur plaidoyer pour un repas. Ce que tu es en train de dire. Donc, au final, quand on est à Kadosh Baruch Hu, qu'on sort couplé à Beyrouth, ben, voilà, il y avait du shtout.
Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le shtout, Tu peux le dire seulement à partir d'un certain stade.
Ça va, d'accord, mais il était trop fort.
Ah ben non, mais quand il est trop fort, tu t'es laissé aller une première fois.
Je me suis pas
c'est allé... sûr.
Mais d'accord, mais qui s'est
pas possible.
Présenté le plat de chips alors que j'en avais pas le droit. Tu sais très
oui,
bien
mais, oui mais au moment où on te l'a présenté, t'aurais pu te... c'était pas encore la folie. Au moment où on te l'a présenté, c'était une tentation.
Oh bah elle est forte, hein.
Non, mais tu me l'as présenté.
Regarde bien, regarde.
Attends, mais voilà.
Il faut différencier la tentation de la folie. Au moment où on l'a présenté, c'était une tentation. Et la tentation peut être très forte, mais c'est une tentation. Qui dit tentation dit qu'on me tente à faire quelque chose, mais je peux dire non.
Je comprends. Mais pourquoi tu me présentes
C'est le but du monde.
C'est le but. Ah, c'est le but. Il veut nous tester.
Sinon, il n'y a pas de monde. C'est Gan Eden sur Terre.
Bien sûr que Dieu sait très bien comment il nous a créés. Tu crois que Dieu ne sait pas les plaisirs qu'il nous a mis? Il sait mieux que nous les plaisirs qu'il a créés. Il en connaît même des plaisirs qu'on n'a pas encore trouvés, nous. Il est dommage, t'as pas vu là-bas, il y a un truc là-bas, quelque... celui-là, tu l'as pas encore goûté. Dieu connaît mieux que nous les plaisirs du monde. Seulement.
Mais ce sont des règles qui sont employées en commerce et en marketing.
Que de tentation jouer... et folie.
Voilà, tentation, ouais.
Ah oui.
C'est comment tu arrives à acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin.
Oui, c'est. Une fois, quelqu'un qui m'a dit. Il m'a dit, si c'est quoi la différence
hein
Il m'a dit, si c'est quoi la différence entre un commerçant et un rabbin.
La méthode, c'est abonner son casque.
C'est quoi la différence?
Vas-y,
c'est qu'un commerçant.
C'est déjà marrant.
Un commerçant, il te pousse à acheter ce que tu n'as pas besoin mais que tu as envie. Le rabbin, il te vend ce que tu n'as pas envie mais tu as besoin.
Mm-hmm. Alors, un rabbin oui, commerçant. Oula. Il a du mal.
On continue. Alors, il dit maintenant aval, mais, émettre la mytho. Donc. Alors, on est maintenant, alors on est Bémet la mytho, page 300. Aval mais Bémet la mytho, en vérité. Vérité de vérité. Hein, voilà, vérité de vérité.
C'est la vérité. D'accord. Si vous...
Donc ça veut dire vraiment. C'est-à-dire si tu, vraiment tu es allé au profond de toi-même, ouais, réfléchis. Bémet la mytho. D'accord. Sans être mytho, vraiment, en étant vrai. Bémet la mytho, en vérité. Alors dans les mots. Afilou avera kala, même une avera légère, entre guillemets. Une avéra légère, ça veut dire que une avéra sur laquelle la punition est plus légère qu'une autre, comme ce qu'a dit Abraham. Aréa ovra, celui qui la transgresse, over al rationel barouchou. Rappelez-vous le début du chapitre 24. Quand je transgresse une avéra, peu importe l'avéra, ça s'appelle avoda zara. Ça s'appelle que j'ai mis Dieu de côté, et donc ça s'appelle idolâtrie. Donc même si c'est une petite avéra, celui qui la transgresse, il a transgressé la volonté de Dieu. Peu importe s'il transgresse la volonté de Dieu sur ça ou sur ça, que ça change. De toutes les façons, il y a un élément qui reste le même, c'est qu'on a transgressé la volonté de Dieu. Et quelle est la traduction littérale de avéra? Les gens, ils traduisent avéra par faute. C'est une erreur. Parce que si on traduit avéra par faute, il y a des fautes graves, des fautes moins graves. La traduction littérale de avéra, c'est quoi? Transgression. Transgression, une fois que tu as transgressé. Peu importe, il n'y a pas plus grave, moins grave. C'est binaire. Ou tu as transgressé, ou tu n'as pas transgressé. Traduction littérale de avéra, c'est transgresser. Traite, c'est une faute. Et là, on parle de avéra. Transgression. Donc, tu te dis, qu'est-ce que ça change? L'avéra, t'as l'air plus grave, moins grave. L'avéra, la punition est plus grave, moins grave. Peut-être la punition est plus grave. Peut-être que la faute, pour revenir à ta question, Abraham, la faute est peut-être plus grave dans certains cas, mais la transgression, elle reste la même. Qu'est-ce que ça change? J'ai transgressé ce que Dieu a dit.
Quand on fait
le vidéo, on fait le vidéo sur tout. On fait le vidéo sur tout.
On parle de péché, on parle pas de transgression.
Bien sûr. Mais le mot avéra que la Gemara a employé, ça veut dire transgression. Ça veut pas dire faute.
Ce qui est le plus grave.
Ça veut dire, vous savez, c'est une des choses sur ça qu'on a pompé des. Enfin, on a pompé des goyim, ça. Comme quoi, la notion de faute, on appelle ça une faute. D'accord? Oui, oui. Ça vient de chez eux, ça.
C'est pas juif.
Parce que quand par exemple, ils vont aller confesser. Parce que vous savez, la confession, on en a parlé dans la paracha Bamidbar. On parlait il n'y a pas longtemps dans la Bamidbar. Quand on parle de la confession, bon, il dit j'ai fauté. Quand il dit j'ai fauté, bon, qu'est-ce que t'as fauté? D'accord? Bon, le père, le fils, bon, quasi, mon père, bon, enfin bon, qu'est-ce qu'il a fauté? Alors il va répondre, il va dire voilà, j'ai fait ça. Bon, par rapport à ce qu'il va raconter, on va dire ah, ça c'est grave. Ça, c'est moins grave. Il te le dira pas, mais la manière dont il va réagir, il y a des fautes graves, des fautes moins graves. On est d'accord? Bah oui. Il dira pour ça, tu feras ça, pour ça, tu feras ça. Ça, c'est pour, ça, en vérité, on a pompé de chez eux. Parce qu'en vérité, en français, je parle. En hébreu, tu vois le mot avéra, ça veut dire transgression. Il n'y a pas, j'ai fait ça, est-ce que c'est grave? Le fait même de faire une avéra, c'est déjà grave. même si c'est un Lashon Hara qu'il a dit une fois par an.
Alors c'est quoi la différence entre Avera et
Chet? Ah, c'est par rapport à la punition. C'est qu'il y a des Averot pour lesquels la punition est plus grave. La faute est plus grave, c'est-à-dire le dégât est plus grave, donc la punition sera plus grave. Mais en, concernant la transgression, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant comment, en vérité, on s'est fait avoir par le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il m'a eu parce que lui, il s'est focalisé sur le côté chet, sur le côté faute. Là, effectivement, je peux dire, bon, l'église est très grave, la femme, c'est moins grave. Mais si je me concentrais en vérité sur le vrai côté des choses, Behemet, la Amito, de voir la Avera, la transgression, c'est kif-kif, c'est la même chose. Dans les deux cas, les deux font partie des 613 mitzvot. C'est pas que la vera de ne pas transgresser, donc la vera de ne pas aller dans l'église, c'est elle vaut 10 points et l'autre elle vaut un demi-point. Elles valent tous un point dans les 613 commandements. C'est un commandement. Et celui qui a commencé à les transgresser, donc il n'y a pas de différence. Seulement, ça va pour les tzara. Le tzara, il me rend fou, il me dit ça, c'est pas grave. Et chacun a sa petite nuance. Alors bon, bien sûr, pour cette femme qui était légère, ben, elle se laisse aller, c'est quoi se laisser aller? C'est est-ce que je prends ce monsieur ou je le prends pas? Voilà. C'est son truc, tu vois, elle le voit, il me plaît, est-ce que je vais ou je vais pas? Nous, on n'est pas à ce stade-là, Baruch HaShem. On a d'autres stades. Mais chacun à son niveau, il a son moment dans lequel il devient fou. Ça veut dire que, il dit c'est pas grave, je reste celui que je suis. On n'a pas envie de dire que je ne suis plus celui que je suis. J'ai pas envie de dire, je suis plus religieux, je suis religieux, ça va. Bon. J'ai pas envie qu'on me dise que je suis plus celui que je suis. Alors comment je me rassure? Je me dis ça va, je reste religieux quand même. C'est pas grave. Bon, de toute façon, t'as vu ce que les autres y font, etc. Bah, tu te rassures. Alors dans les mots. VA est fraîche. Alors où je suis dans les mots? Non, ça j'ai déjà lu. Vehu betachlit apiro d'état mistracha au klipa, nikret et le kimachim babadazara mamaj. Comme on a expliqué longuement en vérité, hein, il répète plusieurs fois, mais enfin, c'est, à chaque fois il fait un développement qui dit différemment. Il dit qu'en vérité, d'une certaine manière, quand je fais une avera, je suis plus grave que la avodazara en personne, que le satan en personne. Parce que rappelez-vous, eux ne font qu'accomplir leur mission sur terre. Shehem, behemot, tmeot, vechayot, veofot pei, mushketim, rumbisim. Voilà, je vais un peu vous dégoûter là. Imaginez par exemple un cochon. Est-ce que ça vous dégoûte le cochon? Hein? Imaginez un reptile. Un reptile sale comme ça. Dégoûtant. Répugnant. Répugnant.
Bon, tu forces le trait là.
Imaginez, d'accord, un être abominable, répugnant, rampant comme ça. Dégoûtant. Tu le vois, tu dis, ah, ça c'est la saleté. D'ailleurs, c'est pas cachère, on n'a pas le droit de le prendre. Et évidemment, à la limite, t'as même pas besoin qu'on te convainque que c'est pas cachère, parce que tu dis ça, c'est dégoûtant. D'accord. Maintenant, si je te dis qu'en vérité, ce rampant, cet être abominable, ben, il ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, s'il est là, c'est un tzaddik.
Il a une fonction.
Parce qu'il a une fonction, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire, tu vois. C'est le geôlier qui est en prison, il est payé pour ça.
Un traître à 50 ans.
Pourquoi il a été créé?
Il a été créé pour ça. Il a été créé pour te pourrir la vie. Il est là pour ça. Mais lui, il est super, c'est un tzaddik. Alors que moi, quand je fais une avera, je suis pire que tout ça. Je suis pire que le cochon, que le rampant, que tout ça. Je veux dire plus que ça. La Gemara a dit, Kmahamar, comme c'est écrit, Yitush Kadamar. On dit qu'une personne qui a fauté, on dit que Adam Harishon a été créé le dernier, la dernière créature. Ceux qui étaient là, Shabbat matin, j'en ai parlé. Ouais. On dit qu'Adam Harishon, il a été créé en dernier. On le voit. Pourquoi il a été créé en dernier? Parce qu'on dit que Dieu, il a créé tout le monde, il a créé toute l'humanité, et la dernière créature qu'il a créée, c'est Adam. Pourquoi il a créé en dernier? Alors on dit comme ça, on dit de deux choses l'une. Soit tu vas être celui qui te comporte le mieux, et dans ce cas-là, on va te dire, t'as vu, tellement t'es une star, quand t'as tout préparé avant que tu viennes. C'est la star, tu vois. C'est-à-dire, quand il arrive, tout doit être prêt. La table doit être prête, tout doit être prêt. Il y a les valets qui l'attendent pour lui enlever le manteau. Et il lui présente la chaise, et quand il rentre, il y a quelqu'un qui est là pour lui mettre la chaise en même temps qu'il s'assoit. C'est-à-dire, même pas, il se prend la tête de prendre la chaise. Il s'assoit tout de suite. Oui, oui, il y a 10 000 personnes qui sont là pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Si tu te comportes bien, Kadosh Baruch Hu, t'as vu ce que je t'ai fait? J'ai créé le monde entier avant de te créer. J'ai créé un Shulchan Aruch avant de te créer. J'ai créé une table dressée. Comme ça, quand tu arrives, t'es la star. Mais si tu te comportes mal, c'est ce qu'on va te dire. On va te dire, même le moustique, il a été créé avant toi. Pourquoi même le moustique? Qu'est-ce qu'on a avec le moustique? On n'aime pas les moustiques. Bon, c'est vrai qu'on les aime pas quand ils piquent, mais qu'est-ce qu'on a avec le moustique? Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a avec le moustique. Regardez, c'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi il est plus grave? Oui, bien sûr. Oukma Amar, comme c'est écrit, page 300 au milieu. Yitush Kadamar. Celui qui faute, il est plus grave que le mal en personne. Pourquoi? Comme on dit que celui qui faute, on lui dit, dans ce cas-là, on lui dit, sache que même le moustique, il a été créé avant toi. Mais qu'est-ce qu'on a avec le moustique? Pourquoi le moustique? Pirouche, ça veut dire. De af yitush, même le moustique, chez Machnis ve'enomoti. Le moustique, il consomme sans pouvoir avoir les excréments. Vous savez, c'est un principe dans le moustique. Ouais. Le moustique, il pique jusqu'à qu'il meure. Il pique jusqu'à la fin, il meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il a trop piqué. Parce que le moustique, il a un problème. C'est qu'il peut que rentrer, mais il peut pas sortir. Ça veut dire qu'il a pas d'excréments.
C'est le seul.
Tous les autres, il a un système, mais il peut pas sortir. Il peut pas faire sortir. Donc si t'as un moustique qui sait se retenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rester comme ça des années. Il pique que ce qu'il a besoin, et après il revient dans un mois pour repiquer ce qu'il a besoin encore. Celui-là, il peut rester des années. Mais comme les moustiques, ils sont pas comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent, jusqu'à qu'à la fin, il n'en peut plus, il meurt. C'est-à-dire, quand tu vois qu'il est mort, ça veut dire qu'il a piqué tout le sang qu'il pouvait, et il a fait une overdose, il est mort. Il a fait une overdose. Voilà. Le moustique, il meurt d'overdose. Bon. Pourquoi on dit même le moustique? Dans la Kabbalah, on dit que le moustique, ça représente ce qui est le pire dans la clipa, dans le mal. Parce que normalement, quand tu as le mal, il y a toujours marnis ou moti. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça rentre sa sœur. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va pousser la personne à faire quelque chose. Mais il compte récupérer quelque chose. Donc il y a toujours un aller-retour. C'est-à-dire, je donne quelque chose, je compte récupérer. Je récupère, je compte redonner. Il y a toujours un aller-retour. Et toujours, même dans le mal, c'est comme ça. Je prends quelque chose à quelqu'un, mais quelque part, je vais lui redonner un petit peu. C'est quoi le mal absolu? C'est quand je fais que prendre, quitte à me gaver et quitte à en mourir. C'est-à-dire, tellement il veut qu'il va en mourir. Alors, tu sais ce qu'on dit? On dit l'homme qui a fauté, on lui dit même le moustique qu'il était avant toi. Ça veut dire que tu es pire que le moustique. C'est-à-dire même le moustique que selon la Kabbalah, selon le Zohar, il représente le mal absolu, celui qui est là que pour piquer, d'accord? Sans rien tirer de ça, il va rien tirer, il va mourir de ça, il va mourir d'overdose. Eh ben, on dit, toi, le Adam qui faute, si tu fautes, on te dit que tu es même après celui-là. Pourquoi? Parce que le moustique, il a été créé pour ça. Alors toi, tu n'as pas été créé pour ça.
C'est marrant ce que tu dis. Il y a d'autres personnes qui ont mangé sans faire d'excréments, c'est ceux qui mangeaient la manne.
Ah, c'est autre chose. Parce que la manne.
Non,
la manne, s'il n'y a pas d'excréments, hein, c'est très simple. C'est parce que la manne, elle était digérée à
100%. Tout était bon.
Et de toutes les façons, la manne. Ah, mais non. Parce que la manne, on ne pouvait pas en prendre plus que ce qu'on a besoin. Parce qu'on dit que quand une personne, par exemple, qui sortait, qui prenait 10 kilos de manne, il rentrait chez lui à la maison, il avait au gramme près la quantité que son corps avait besoin. C'est un miracle. C'est un S. On dit qu'une personne, par exemple, qui a une famille nombreuse, tu pouvais sortir et prendre 100 grammes, tu rentres à la maison, tu avais la quantité exacte que tu avais besoin pour toute ta famille. C'est un miracle. C'est-à-dire, tu avais pile au gramme près la quantité que le corps t'a besoin. C'est un système. Imaginez si les diététiciens avaient trouvé ça aujourd'hui.
Zéro gaspillage.
Ça veut dire que tu vois, t'as la nourriture qui t'arrive au gramme près ce que tu as besoin. Aux calories près. Il n'y a pas une calorie de plus que tu as besoin. Pas de problème, dans ce cas-là, tu peux y aller. Mais ce que tu vois qu'il y a devant, c'est ce que tu as besoin. Et en plus, ça te rassasie. Eh, vas-y. Cool. Que demande le peuple? Ça, c'est la manne.
De la manne.
Rassasie et ça ne fait pas. Ah, bah oui, c'est.
La manne, ça aurait été le meilleur régime. Ah, moi, je peux vous dire que. Vous racontez ça aux femmes, ils vont vous dire, mais attends, on attend ma chère, on veut la manne, nous. Donc, je reprends. Pourquoi on nous compare au moustique? Pourquoi une personne qui faute, on lui dit tu es plus grave que le moustique? Pirouche, ça veut dire, écoutez le pirouche de la Kabbalah. Des aff, il y touche. Même le moustique. Chez Marnis, Veeno Motsi. Qu'il peut que rentrer, mais qu'il ne peut pas excréter, il peut pas sortir. Même lui. Chez Hiklipa Ayoter Tartona, que ça, ça représente le mal absolu. Le plus bas possible. Ou Chokam Prinatak Doucha. Le plus long possible. La Kedoucha, parce que c'est quoi la Kedoucha? La Kedoucha, on donne. Ça, la Kedoucha. La Kedoucha, on fait que donner. Dans le mal, on prend. Mais dans le mal normal, on prend, mais on redonne un peu. Mais le mal absolu, on fait que prendre. Donc c'est vraiment. L'opposé absolu de la Kedusha. Le moustique, c'est l'opposé absolu de la Kedusha. Autant la Kedusha, c'est on donne sans fin, autant le moustique, c'est on prend jusqu'à mourir de overdose. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? Moi qui fais une avéra, à filou yitouche kadamar, même le moustique m'a précédé, il a été créé avant moi. Donc, à mashpad betachlit arichouk, beishtal shilut viirid, donc, kodemet leish achoté, même le moustique, on dit qu'il m'a précédé, beishtal shilut viiridat achayut baratson elon baruchou. Ben oui, parce qu'encore une fois, qu'on a expliqué. Le moustique, il a été créé pour ça. Est-ce que le moustique, après 120 ans, bon, il n'y a pas 120 ans, lui, je ne sais même pas quelle est la durée de vie d'un moustique. Intéressant, ça, hein?
Pas beaucoup, ça dépend si tu l'as tapé.
Regardez, il y en a qui vont chercher sur Wikipédia. Alors, hein?
Combien? Ça ne dure pas longtemps.
Dans ta chambre, pas longtemps. Ça dépend.
Sa durée de vie, c'est 3 repas, pas plus.
3 repas. Pas mal.
Mais c'est vrai que
Les animaux ne vont pas faire d'avérotes.
Le seul moment où ils ont fait, on dit que les animaux sont corrompus, c'est...
Oui, mais ça veut dire... C'est intéressant ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les animaux, même s'ils ne fautent pas, mais il y a des animaux qui véhiculent les idées négatives. C'est pour ça que la Torah nous les interdit. Tu comprends, par exemple, le cochon, il véhicule la saleté, etc. Enfin, chaque animal, il y a une expression, il véhicule une idée, il véhicule quelque chose. La Kabbalah s'arrête beaucoup sur ça. Peut-être il faudrait qu'on fasse un cours sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Bon, comment chaque animal, chaque aliment véhicule quelque chose. Pour ceux qui étaient à la veillée, d'ailleurs, on en a parlé. Quand j'ai préparé ce cours, j'ai traité beaucoup de choses. Quand on parle, par exemple, de Khalav et Bassar, hein, on a parlé à la veillée comment chaque aliment véhicule quelque chose. Et donc, pareil. Donc, un animal véhicule quelque chose. Le moustique, qu'est-ce qu'il véhicule? Combien? Quelques semaines? Voilà. Bon, mais en tout cas, de quoi il meurt? Il meurt de overdose. Il meurt de overdose. Ça, c'est clair. Parce qu'il peut pas sortir. Peut-être qu'après, il y a des variants de moustiques aujourd'hui qui sortent, j'en sais rien.
Comment
c'est un problème, ça. Il peut pas se reproduire.
Oui.
Non, on parle de sortir.
Les excréments.
Digestifs.
Dans le digestif, il peut rien sortir.
Dans le digestif. Non,
après, il y a des laves et des choses comme ça. Enfin, il y a des communications.
Ils peuvent se transmettre des maladies quand même. Donc, ils sentent des trucs.
Ah, bien sûr, non. Hein, mais les excréments ne peuvent pas sortir. Le système digestif n'a pas de.
Mais non.
Ok. Dans les mots. Donc, du coup, ouais, ça fait deux semaines on était idolâtres. Maintenant, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu fou. On est devenu pire que le moustique, pire que le cochon. Prends sur la tête. Je vous avais dit que quand on utilise ce chapitre, on a moins envie de voter. Hein? Oui ou non? Bon, continue. Alors?
Le truc, c'est que même malgré qu'on sait ça maintenant, que toutes les avérotes, en fait, c'est la même chose.
Tu continues à voter.
On va continuer à voter. Ah, bien sûr, on va continuer à voter. Mais ça va nous aider à réfléchir un petit peu. Ça veut dire que si par exemple, ce soir ou demain, ou je sais pas quand, avant de voter, vous allez vous retenir une fraction de seconde, ça sera gagné grâce à Dania.
Ouais, mais le problème, c'est que tu peux oublier.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas que sur les actes. Il nous juge aussi sur le temps qu'on s'est retenu.
Ah oui. Oui, c'est la résistance.
Ah, ça va mieux. Ah non, il faut y aller.
Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir.
Alors, la prochaine résistance, après on l'a
dit. Surveillez-le ce soir, lui. Hein, ça veut dire quoi, ça va mieux?
Non, de toute façon, on va.
Ça revient un petit Lechaïm pour.
C'est pas grave. Ça veut dire si on rallonge le délai de flanchage, on va gagner quelque chose.
Bien sûr qu'on a gagné. C'est sûr qu'on a gagné. Heureusement, Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'est retenu.
Voilà, samedi prochain.
Quand tu vois par exemple que ton fils il voulait faire une bêtise et tu vois qu'il s'est retenu. Tu vois, il s'est retenu, ça fait deux semaines qu'il se retient. À la fin, il a craqué. Pour toi, c'est pas la même chose que si dès le départ, il a craqué.
Non, c'est sûr.
Ça n'a rien à voir. C'est incomparable.
Oui, ça, lui, il
à la limite, au contraire, à la limite, tu fermes les yeux. Tu dis bon. Là, j'ai vu qu'il essayait. Ok. Donc, dans les mots. Vechol Sheken, She'ar, Baale, Chaim, Atmeim. À plus forte raison, les autres animaux. Les autres animaux, à part le moustique. Le moustique, c'est plus grave, mais les autres animaux. Donc, les autres animaux impurs. Vafulu, Chayot, Raot. Et même les animaux sauvages. Mauvais. Vous savez comment on appelle les animaux sauvages en hébreu? Les animaux mauvais. Pourquoi la Torah les appelle mauvais? Comme on l'a expliqué. Parce qu'il y a des animaux qui véhiculent une nature mauvaise. Il y a des animaux qui ont une nature mauvaise. Ils ont une nature qui il veut tout casser, il veut tout détruire. Il est comme ça. Il est agressif.
Notre
mauvais mamache. Dieu l'a créé mauvais. Il est mauvais.
Bah, les hyènes.
Il y a des animaux mauvais. Chayot raot. C'est-à-dire qu'un animal, des fois, qui va tuer pour tuer. Il y a des animaux qui tuent pour tuer, même pas pour manger, par plaisir. Ils ont un plaisir de tuer. Vous savez ça? Il y a des animaux qui vont tuer parce qu'ils n'ont pas le choix, comme le lion. Le lion, par exemple, quand il n'a pas le choix, et il faut un repas pour les enfants, bon, il va aller faire les courses. Il n'a pas le choix. Les courses, il fait les courses, il prend ce qu'il trouve. D'accord? Le lion, par exemple, est très doux. En vérité, il est très doux. Mais vous avez des animaux qui tuent pour tuer. Des animaux comme ça, il veut tout casser. Ça, c'est une nature mauvaise. Mais même un animal comme ça, chez Koulam, tous, Einam, Meshanim, Tafidam. Tous ces animaux ne changent pas de leur but. Ils ont un but, ils ont une mission, ils la font. Ufkudato itbarer shamra rucham. Et qu'ils ne font que respecter les ordres de Dieu. Ve'af algav deyu lochazé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux maintenant ils ont un capteur, ils ont des radars qui leur disent quelle est la mission de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'attend, qu'est-ce que Dieu me demande. Ils disent non. Il y a un principe que dit la Guémara, que même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais l'instinct y voit. Et l'animal, un animal qui est mauvais par son instinct, c'est parce que Dieu lui envoie un signal pour lui dire tu dois être mauvais maintenant. Et c'est pour ça qu'on a des exemples avec des animaux. Comme ça, tout d'un coup, il est tout doux, tout calme. Tout d'un coup, il pique une crise, il casse. Pourquoi il est devenu comme ça? Parce qu'il y a un instinct. Il a un instinct, et qui lui a envoyé cet instinct? Qui lui a envoyé cet instinct? Qui lui a envoyé cette pulsion-là? Cette pulsion, il a un mazal. Il a un mazal, c'est des pulsions qu'il reçoit, qui lui dit, maintenant tu deviens fou. Des choses qui ne s'expliquent même pas. Ça, c'est l'animal. L'animal, il a aucun libre arbitre. Voilà, retenez ça.
Même.
Il a aucun libre arbitre. Il n'a pas. T'as rien à faire. Il est conçu pour ça. Et même quand des fois t'as l'impression, ça le chidouche, même quand des fois t'as l'impression qu'il s'est lâché, des fois t'as l'impression qu'il s'est retenu, on le voit ça, vous savez, quand le personnage géographique, tout ça, il te montre, tu vois, il se retient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et à un moment il se lâche. Donc s'il se lâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait une avéra? Tu dis non. En vérité, c'est pas qu'il se lâche. C'est que, en vérité, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a une pulsion qui devait se lâcher, parce que Dieu lui envoie cette pulsion-là. Il ne le fait qu'accomplir sa mission. Même quand tu crois qu'il se lâche, il fait tromper son mission. D'ailleurs, regardez, c'est très simple. Vous savez, c'est très simple. Vous avez un indicateur très facile. Ou kumo shekatuv, comme c'est écrit, ou mora chem vechitra midi al kochayat haaretz. Dieu l'a écrit dans la paracha Bereshit. Il a déclaré. Il a dit que mora achem vechitrem, vos craintes, d'accord? Donc votre crainte sera al kochayat haaretz, sur tous les animaux sauvages de la terre. C'est-à-dire que normalement, un animal sauvage doit avoir peur de l'homme. Dieu l'a dit.
Donc, tu pourtant, parles de domination.
Il doit avoir peur de l'homme.
Le tigre et l'homme doivent avoir peur de l'homme.
Alors, pourquoi il n'a pas peur? Comment c'est possible?
Mais il a peur.
Alors je vais vous dire pourquoi il n'a pas peur. Parce que la Gemara, et Rachid le ramène, il dit, dans quel animal a peur de l'homme? Il a peur si l'homme est un homme.
Merci.
Si l'homme a une image d'homme. Si l'homme a une image d'Akadosh Baruch Hu. Là, l'animal tout de suite, il se calme. Mais si l'homme se comporte comme un animal, il dit, ah, t'es un animal, moi je suis le roi des animaux. Oui. Quand l'animal il te regarde, l'animal il sent. Quand il te regarde et que devant lui il voit un animal comme lui, il dit un animal, ah, c'est moi le patron des animaux.
C'est ça.
Mais s'il voit un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Il dira les hommes. Ça, on doit respecter les hommes. On a plein d'exemples. Comme Daniel dans la fosse aux lions. Les gens ils pensent que c'est un miracle. Il a été sauvé, ils n'ont pas mangé les lions. Mmh. Mais non, c'est pas un miracle. Parce que comme Daniel c'est un sadique, les animaux ont peur de lui. Quand on vous raconte, par exemple, que lorsque Moshe Rabbeinu, il est venu pour entrer dans le palais de Pharaon, il est passé par l'entrée principale dans laquelle il y avait des gardes, on ne laissait pas passer. Il a pris la deuxième entrée dans laquelle c'est l'entrée qui était protégée par les animaux. Et il est passé, les animaux sont courbés. C'est pas un miracle! C'est pas un miracle! Parce que les animaux, Dieu a créé dans la nature que les animaux ont peur des hommes. C'est pas un S, c'est normal. Quand on raconte, par exemple, que Rabbi Chaim Ben Attar dit que quand il est parti du Maroc pour aller en Israël, et on raconte que dans la route, il était avec des gens, il était avec une caravane, et en plein milieu, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Il est venu faire cette fille-là, et ils l'ont laissé en plan. Voilà, ils l'ont laissé en plan, il était là tout seul. Maintenant, ils l'ont dit, on s'en va, il a fait comme si rien n'était, il a continué à faire cette fille-là. Termine cette fille-là, des heures après, il n'y a plus personne. Comment il va faire? Il faut qu'il arrive en Israël. Quel jour, il envoie un lion. Le lion est venu, et le lion, il se courbe. Il est monté sur le lion, puis le lion s'est levé. Il a tracé, et après il est passé, enfin certainement l'histoire raconte pas, mais certainement il a dû passer devant Samuel, coucou, d'accord, parce qu'il a dû la rattraper avec le lion. Le lion, il l'a amené, il arrive en Israël, ils ont eu peur. Ils l'ont vu arriver avec un lion, ils ont dit, c'est quoi ce truc-là là? Un homme qui vient sur un lion. C'est quoi le pchad de cette histoire? Vous croyez que c'est un miracle. Puis, il y a un miracle ici. Et le miracle, c'est que le lion est venu. Mais que le lion a peur d'un homme, c'est normal. Donc il te dit comme ça. Il te dit, ça c'est une preuve, que même l'animal qui t'a l'air le plus mauvais possible, même l'animal que t'as l'impression qu'il s'est lâché, en vérité il fait que sa mission. La preuve c'est quoi? C'est que même cet animal qui est mauvais, quand il arrive devant un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il se tait. Ça veut dire, ça c'est la preuve qu'il fait sa mission. C'est pas, il va se dire, non, j'ai trop envie, il est craqué, c'est pas grave, c'est un tzaddik, je le bouffe quand même. Ah non, il arrive devant un tzaddik, il se tait.
Ça doit être bon un tzaddik.
C'est vrai, il dit, j'ai jamais goûté, peut-être c'est bon un tzaddik. Pourquoi il décrit un intellect qui souhaitait? Parce qu'il ne fait qu'accomplir sa mission. Et dans sa mission, il sait que quand tu as quelqu'un qui est intellect, on ne touche pas. Oui, donc ça veut dire c'est très clair. L'animal fait sa mission. Alors que moi, quand je fais ma vera, je ne fais pas ma mission. Ok, Pirouj Rabotenu Zichonam Livracha, comme le Chamim dit à la Gemara Shabbat, She'en Chaya Ra'a Moshelat Be'Adam, qu'un animal sauvage ne peut dominer un homme, et la imken, sauf si, nidmela ki bema, si l'homme lui a l'air comme un animal. Comment on a expliqué? Ben, tzadikim, les tzadikim, sh'en tselem elokim istelek emel peneem. Les tzadikim, que l'image de Dieu ne quitte jamais leur visage. Nous aussi, on a de l'image de Dieu sur nous. Le jour de Kippour, quand on est à la synagogue. Mais après, quand on sort, on devient des animaux. Donc si le lion rentre à la synagogue, on va te laisser tranquille à la synagogue. Mais quand tu sors dehors, comme on devient des animaux, ben là, le lion, il dit, ben, moi aussi, je suis un animal. Un animal, moi, je suis plus fort que toi.
Il y a des histoires beaucoup plus récentes hein, que Daniel. On raconte aussi une histoire avec Joshua.
Ah, plein d'histoires, oui, c'est très fréquente. Et moi, je vous raconte une histoire avec des rabbis du Chabad, plein d'histoires comme ça. Des histoires avec les rabbis du Chabad qu'on a mis dans des fosses, qu'on a mis dans des prisons russes avec des animaux, etc. Et à chaque fois, pas de problème. Par exemple, un exemple, une fois par exemple, un cheval, il réfléchit pas, il avance. Le rabbi l'admor Zaken, une fois il était comme ça dans le il était en train de l'amener en prison. Et à un moment il dit, écoutez, je dois m'arrêter parce que c'est bientôt Shabbat.
Ah oui.
Il s'arrête pas. Les chevaux se sont affaissés, se sont arrêtés.
Ouais.
Et le cocher, rien à faire. Alors à la fin, bon, il y avait les chefs qui étaient derrière qui disaient, mais attendez, mais cognez-les, etc. Alors le cocher dit, écoutez, vous savez, un cheval, quand il est par terre comme ça, tu peux rien faire, va le lever. Mmh. C'est lui qui nous porte, c'est pas nous qui le portons. Pourquoi? Parce qu'il sent, un animal il sent, quand il voit l'image d'un tzaddik, et que le tzaddik lui dit, fais quelque chose, il écoute. L'animal il sent ça, les animaux, il sent la kdoucha. C'est pour ça qu'on dit que, bon, enfin, il y a beaucoup d'histoires entre les chiens et l'ange de la mort, etc. Parce que les animaux, ils ont cette sensibilité de sentir la kdoucha. Nous, on voit pas ça. Mais ils sentent le tzaddik. C'est pour ça. Ve'at tzaddikim, les tzaddikim. On va terminer avec ça. Shen tselem elokim istalakim alpeneem. Les tzaddikim, que l'image de Dieu ne les quitte jamais. Kol chayod raot, tous les animaux sauvages. Pas seulement les animaux sauvages. D'accord? Les animaux sauvages classiques. Même les animaux les plus sauvages possibles. Les animaux qui sont là, ils veulent que tuer. It kafian kamayou. Non seulement qu'ils les embêtent pas, ils se baissent devant eux. C'est toujours l'image qu'on a. C'est pas seulement qu'ils passent sa route. Du style, le lion, il passe. Devant le tzaddik, il dit, bon, ça va, toi, je te touche pas, je vais prendre le prochain. Le lion, il passe devant le tzaddik, le lion se baisse. Parce qu'il est conscient, ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Il a peur. Il se baisse comme moi, j'ai peur devant le tzaddik. Je passe devant le tzaddik, je me baisse. Je dis pas comme si, bon, je passe. Non, je me baisse devant lui. Eh ben, le lion, il sent ça, il se baisse. Ça veut dire que tous les animaux ne font qu'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme moi, je sais qu'à tout Zohar, comme c'est écrit dans le Zohar. Gabé Daniel Begovariot, à propos de Daniel dans la fosse au lion. Et donc, Veimken, c'est comme ça, on finit avec ça. Achote veover al retsono. Celui qui faute et qui transgresse la volonté de Dieu, afilu ba avera kala. Même si c'est pour fauter, ne serait-ce qu'une petite avera. Bechat maase, au moment de la avera, ou betachli tarirouk me kedusha aliona. Il est le plus loin possible de la kedusha. Parce que rappelez-vous, on avait dit que le moustique était le plus loin possible de la kedusha. Parce que la kedusha, c'est on donne, le moustique, c'est on prend. Et bien celui qui faute, il est encore en dessous du moustique. Ça veut dire il est le plus loin possible de la kedusha. Plus loin que ça, tu peux pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est l'unicité de Dieu. Celui qui a fauté, il a décidé de quitter l'unicité de Dieu et d'en faire à sa tête. Personne, à part l'homme, en fait à sa tête. Ça n'existe pas. Nous sommes les seuls qui en font à notre tête. Personne.
Sans avoir la capacité.
Oui. Les autres, ils n'ont pas la capacité, bien sûr. D'accord? Donc, Yoter Mikol Balechai Matmeim, on est pire, donc, il est pire, l'homme qui faute, hein, quand il faute, bien sûr. Il est pire que tous les animaux impurs, Ushkatsim, Urmasim, et les insectes, et les rampants, Amushpaim, Istrarab, ou Klepatistra, Avodazara, qui viennent, eux aussi, de la Klipa. Mais, encore une fois, ils viennent de la Klipa, ils viennent des forces du mal, mais ça change pas que, ils sont payés pour ça, ils font leur fonction. D'accord? Donc, conclusion d'aujourd'hui, la semaine dernière, on a expliqué qu'est-ce que c'est la définition de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on a expliqué la définition de la folie. C'est quoi la folie? La folie, c'est quand on pousse à faire quelque chose qui n'est pas logique, que moi-même, je comprends que c'est pas normal, c'est fou ce que je suis en train de faire, et on pousse à devenir fou. Quelle est la folie du Yetzer Hara? La folie du Yetzer Hara, c'est qui me fait croire que certaines avérotes sont plus graves que d'autres. Alors, c'est vrai que certaines avérotes sont plus importantes que d'autres, mais au niveau de la transgression, c'est exactement les mêmes. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant la semaine prochaine, on va revenir à la question d'Abraham. Il va dire, c'est vrai ce que tu as dit, que normalement toutes les avérotes sont les mêmes, sont kiff-kiff. Mais on voit quand même qu'il y a des avérotes pour lesquelles on doit donner sa vie. Il y a des avérotes pour lesquelles on ne doit pas donner sa vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des avérotes plus graves que d'autres? Parce que quand même, il y a quand même une hiérarchie. Par exemple, il faut donner sa vie pour ne pas faire Avodah Zara. Mais on ne doit pas donner sa vie pour faire le Shabbat.
Il faut donner sa vie pour ne pas faire Avodah
Zara. Ah, bien sûr. Mais si par exemple, un goy, il me met un pistolet à la tempe et il me dit... Allume la lumière Shabbat ou je te tue.
Je vais allumer.
D'accord? J'ai pas dit que je vais allumer. Mais en tout cas, j'ai pas l'obligation de. En tout cas, si je vais allumer, on me dira rien. J'ai pas trop d'essayer d'avérer. Après, si je veux quand même pas allumer et que je me fais buter, c'est une autre question, ça. Hein? Bon, c'est une autre question. En tout cas,
si tu l'allumes pas et que tu sais que, et tu sais que le gars il va se faire tuer, est-ce que c'est pas une avéra dans le sens où, en réalité la Torah a été donnée pour la vie et en réalité tu es en train de gâcher la vie?
Très bonne question. Tu avais en d'autres termes ta question, c'est est-ce que d'une certaine manière le fait de faire cette avéra, c'est pour me permettre de me sauver de ne pas faire d'autres avérotes?
Je sais pas. En tout cas,
c'est comme le malade.
Comme le malade Shabbat. Je profane un Shabbat pour qu'il puisse faire d'autres Shabbats.
Quel intérêt de continuer à faire ton Shabbat en sachant qu'il y a quelqu'un qui est en train de...
Ça va être la piste qu'on va développer la semaine prochaine. C'est cette piste. Justement, la piste d'expliquer que c'est pas des catégories de mitzvot, mais que par rapport au but général, il y a des permissions que Dieu nous donne pour nous permettre de... Bon, ça c'est une direction, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe plus longtemps dans ta chaîne. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on a compris, c'est ne pas se faire avoir par la folie du Tzara qui nous rend fou, et à cause de lui, on arrête de réfléchir, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Voilà. Bon, que Dieu fasse qu'on soit normaux.